Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Mpatine depuis Boïcon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Jules Valentin Gouy est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. Nous retrouverons également Amdine Si à Columbus, ici donc aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Donc je ne sais pas si on a Valdo Simo Yamba Yamba pour le moment. Et donc on tentera de joindre Valdo Simo Yamba Yamba depuis Kinshasa. On me fait signe également que Jules Valentin Goué est en ligne. Bonsoir messieurs et merci de répondre une fois de plus à notre appel. Vous le savez, les matchs de la deuxième journée des éliminatoires, non, des coupes africaines, pardon, des clubs ont eu lieu ce week-end sur le continent. En Ligue des Champions, dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe a enchaîné en Zambie face à Zanaco, battu 2-1. Ça fait un bon moment que les Corbeaux n'avaient plus gagné à l'extérieur. Et là, ils font un bon coup double en venant à bout de ces signes indiens, mais aussi et surtout en signant donc une précieuse deuxième victoire qui les rapproche davantage des quarts de finale. Alors Jules, on va dire, le club de Lubumbashi est décidé cette année.
Oui, bien sûr, non seulement décidé, mais il a repris confiance parce que le tout-puissant Mazembe souffrait surtout d'une crise de confiance. Donc, il y avait les éléments, il y avait les joueurs, il y avait les interférences peut-être événementielles qui touchaient le président et en fait, et principal médecin du club. Mais ça se répercutait sur le football. Et là, on sent que Mazembe est sur la bonne voie et que le calme est revenu et le football se rejoue sur le terrain tout simplement.
Et donc, on va rappeler tout simplement que les deux buts du tout-puissant Mazembe ont été marqués par Jackson Muleka. Le club de Lubumbashi est en tête de ce groupe A devant le Zamalek du Caire qui s'est relancé aussi en battant 2-0 les Angolais de Primeiro de Agosto. Alors Amine, c'est une première réussite pour Patrice Carteron, récemment nommé à la tête du Zamalek.
Une première plutôt réussie dans la mesure où le club a vécu un véritable séisme après la défaite face au TP Mazembe la semaine dernière à Lubumbashi. On parlait de purge, on parlait de joueurs sanctionnés et visiblement la première victime a été l'entraîneur Michou remplacé par Patrice Carteron. Celui-ci va devoir faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire il n'a pas assuré la préparation ni le recrutement et visiblement il a trouvé la bonne formule pour ce premier match avec un doublé du Marocain Ben Cherki qui avait largement contribué au succès du Rwanda en Ligue des Champions 2010 et qui avait eu du mal à se relancer après ce triomphe, dans la mesure où il a eu un prêt au Hilal d'Arabie Saoudite, puis une saison quasiment ratée au Racing Club de Lens. Il trouve l'occasion de se relancer, et avec ce doublé, il est le meilleur buteur de ce club. Donc, le Zamalek remporte une victoire au métier, au forceps, mais également grâce à une meilleure maîtrise des temps forts et temps faibles de cette rencontre. 3 points, qui ce n'est pas cher payé, face à une équipe angolaise qui n'avait visiblement rien montré lors de ce match-là. C'est un succès qui relance le Zamalek dans la course à la qualification.
Et donc maintenant qu'on a Valdo Yamba Yamba depuis Kinshasa, Valdo, bonsoir. Bonsoir Valdo. Valdo, si vous m'entendez, alors on parlait tout à l'heure du tout-puissant Mazembe qui a gagné ce week-end 2-0 lors de sa deuxième sortie en Ligue africaine des champions. Jules le disait si bien, Valdo, avec le retour du président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, auprès des siens, le club de Lubumbashi a tout simplement repris ses forces.
Repris ses forces, j'ai bien suivi Jules, en confiance et également, on le sait, quand dans une maison et que le papa est là, il y a sérénité, il y a calme, même s'il peut y avoir des petits problèmes, mais tout roule sur la bonne voie. Papa d'ailleurs a célébré les 80 ans, donc il faut aller s'affirmer, confirmer davantage. Ça, c'était un souci. Mazembe n'arrivait pas à gagner à l'extérieur, des statistiques qui n'étaient pas à sa faveur, mais là, c'est un gros coup réussi chez le voisin.
deux buts à un, il fallait bien les faire. Et Jackson Muleka, qui est également en train de surfer pratiquement sur les performances, a signé un doublé. Donc les Corbeaux sont en confiance. Et comme Mazembe se retrouve dans ces états-là, attention à tous les adversaires devant, parce que les Corbeaux, ils sont là. Ils jouent pour les titres. Ils sont là, ils montrent déjà leurs ambitions. Donc tout porte à croire que ces ambitions vont certes aller jusqu'à chercher les titres et on verra jusqu'où ils vont aller ces Corbeaux. Donc tout se passe plutôt pour le mieux jusque là pour les Corbeaux et on parle de moins en moins de l'entraîneur Franfine Niayo qui semble trouver également la formule pour pouvoir aligner et tourner également l'effectif. Donc tout est en confiance. Nous sommes également tentés d'observer et d'avoir un œil très regardant sur cette formation pour voir un peu à quoi ça va donner jusqu'à la fin de la saison.
Dans le groupe B, deux matchs, deux victoires également pour l'Étoile du Sahel suite à son succès 3-0 au Zimbabwe devant Platinum. Alors, Élysée, les Tunisiens sont leaders devant Al Ahly du Caire, vainqueur 2-1 des Saoudiens d'Al Hilal.
Bien évidemment, c'est un peu une grande surprise. C'est vrai que l'Étoile du Sahel aussi a du vécu dans cette compétition, mais devant le club le plus titré de cette Ligue des Champions, les Égyptiens d'Al Ahly qui ont d'ailleurs été battus en ouverture par les Tunisiens aujourd'hui. L'Étoile du Sahel qui plane seul en tête de ce groupe A, et grâce à sa victoire à l'extérieur, vous l'avez dit, 3-0, c'est probablement, ça va se jouer probablement entre les deux grandes formation du Maghreb, le National du Caire qui s'est repris quand même après sa défaite inaugurale contre les Tunisiens en battant les Soudanais d'Al Hilal 2-1. Ce fut un match très difficile, mais à l'arrivée, les Égyptiens l'ont emporté. C'est vrai que Al Ahly est en train de connaître un début de saison difficile, même aussi en championnat. C'est vrai que c'est un habitué, mais ça ne va pas pour le moment. Côté tunisien, on a remarqué que c'est une équipe qui joue très bien maintenant au football. Reste à savoir si bien, bon, comme je l'ai dit tantôt, ça va se jouer entre les deux clubs. Mais attention, puisque les Égyptiens ont commencé par venir petit à petit.
Dans la poule C, pas de vainqueur entre deux anciens lauréats de la compétition, le Wydad de Casablanca et le Mamelodi Sundowns score 0-0. Alors Amine, les Sud-Africains s'en tirent, on va dire, finalement avec le point du nul dans ce match entre deux équipes qui se sont beaucoup croisées ces temps-ci et qui se connaissent bien.
On parlait de retrouvailles de famille, mais on a surtout remarqué que l'équipe sud-africaine a assimilé les leçons du passé, n'est pas venue la fleur au fusil. Elle a bien au contraire contenu l'équipe du Wydad de Casablanca en imposant un rythme assez effréné, surtout en obligeant le Wydad à jouer un match en aller, c'est-à-dire en va-et-vient, avec très peu de contrôle au milieu de terrain. Le Wydad manque de confiance, le Wydad n'a plus gagné depuis 4 matchs, et il lui fallait se rassurer devant son public, il fallait gérer cette anxiété. Visiblement, les Rouges et Blancs ne sont pas parvenus à cet objectif. Bien au contraire, les meilleures occasions étaient du côté sud-africain qui aurait pu d'ailleurs à l'entame du match ouvrir la marque sans un but refusé pour un hors-jeu peu évident, ce qui donne qu'une équipe sud-africaine solide qui a réussi à juguler les points forts du Wydad de Casablanca. Le Wydad s'est procuré très peu d'occasions de scorer, ne s'est jamais mis en situation favorable et surtout a dû se résigner lors des 20 dernières minutes du match à jouer le nul. C'est un nul véritablement une belle performance pour l'équipe sud-africaine qui se retrouve en tête avec 4 points. Le Wydad doit revoir sa copie et ce dès la prochaine rencontre face aux champions d'Angola.
Et justement, pas de vainqueur non plus dans l'autre match de ce groupe C entre le champion en Angola, le Petro Atlético et l'USM Alger, 1-0. L'Espérance de Tunis enchaîne avec un deuxième succès en deux matchs dans le groupe D. Les Tunisiens ont eu difficilement raison des Algériens de la JS Kabylie, 1-0. Alors Jules, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est la régularité du double tenant du titre. Je parle de l'Espérance de Tunis et c'est quand même fascinant.
Oui, bien sûr. Mais quand on voit le football tunisien, de toutes les équipes d'Afrique du Nord, la Tunisie a une bonne partie de son effectif en équipe nationale provenant du championnat local. Et donc, automatiquement, c'est quelque chose qui prouve que les équipes locales ont un niveau suffisamment élevé pour dominer les compétitions africaines. Et l'Espérance de Tunis, qui est une institution en Tunisie, ne peut pas déroger à la règle. Il faut s'attendre à tous les coups à rencontrer cette équipe, à la battre pour chercher le titre.
Alors Amdine, malgré ses deux titres consécutifs dans la compétition, on parle toujours de l'Espérance de Tunis. Elle fait preuve d'envie et c'est une véritable leçon de foot qu'elle donne.
Tout à fait, l'Espérance est une très grande équipe et l'Espérance, quand elle joue quand même cette Ligue des Champions, c'est pour la remporter. Donc il faut dire que compter sur eux pour cette saison également, Yacouba.
Dans l'autre match du groupe, les Marocains du Raja de Casablanca ont remporté la victoire 1-0 à Kinshasa devant les Congolais de l'AS Vita Club. Alors, Valdo, c'est le deuxième revers de suite pour V Club et ça devient inquiétant.
Très inquiétant pour la saison sportive Victoria Club de l'entraîneur Florent Ibengué. Certes, ils avaient l'obligation de refaire leur retard dû à la défaite du match de la première journée, mais à Kinshasa, V-Club a peiné devant l'équipe des Rajas. V-Club a manqué d'arguments. Il a tenté plus d'une fois de trouver la faille dans la défense adverse, mais ça n'a pas été. V-Club inquiète. Il paye certainement les frais de ces pléthores de joueurs qu'il a libérés en début de saison. Il n'a pas su les remplacer dignement. Et là, ça paye au comptant. Certes, V-Club a réagi, a cherché à bousculer un peu son adversaire, mais qui a été très solide derrière, très efficace également. Mais malheureusement, quand la ligne offensive ne tourne pas, quand vous manquez de réussite devant, certes derrière, ça ne sera pas aussi opaque que ça. Ce qui est arrivé à Nelson Lukong Bongaman au terme d'un match exceptionnel a fini par aller chercher les coups au fond des filets, 1-0, alors que V-Club, dans ses habitudes à Kinshasa, concéder une défaite n'a pas vraiment d'obédience de l'association sportive Victoria Club. On s'inquiète. Le club est également inquiète. D'ailleurs, certains en appellent à la démission du président de cette formation sportive. D'autres pensent également que Florent Ibengué devait bien sûr accéder les postes. Il faudrait chercher là où ça ne va pas pour trouver des remèdes et remettre cette équipe du bon pied parce que ça inquiète. Mais qu'elle ne risque même pas de sortir de cette phase de groupe, d'autant plus que le groupe est assez relevé.
Tout à fait. Alors Amine, c'est une belle opération par contre pour les Rajaouis qui se remettent dans le sens de la marche dans ce groupe assez relevé comme le disait Valdo tout à l'heure.
Et c'est un changement radical par rapport au visage proposé contre l'Espérance de Tunis. Il est vrai que face au club tunisien, les Rajaouis avaient peiné par excès de confiance, ou avaient pêché par excès de confiance en voulant jouer la fleur au fusil. Là, avec un bloc médian, voire bas, ils ont su fermer les espaces, les angles de passe, les intervalles et surtout jouer tous les coups à fond. Mention spéciale aux attaquants qui ont servi de première barrière défensive et qui ont empêché la relance des joueurs de l'équipe congolaise. Et surtout, mention spéciale aux joueurs du milieu de terrain puisqu'ils ont fait un véritable travail de puisqu'ils étaient des ouvriers dans la récupération du ballon et les premières rampes de lancement pour les contre-attaques qui ont abouti au but de Soufiane Rahimi à la 47e minute de jeu, qui a été un véritable coup de massue. C'est la première victoire d'un club marocain en RDC depuis la création des compétitions africaines. Le Raja est habitué à ce genre de prouesse. C'est le 54e succès du Raja dans cette compétition et surtout le 21e à l'extérieur. Le Raja se relance et il va devoir maintenant jouer deux matchs couperets face à un adversaire qu'il connaît très bien, la jeunesse sportive de Kabylie.
Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Ce fut également la deuxième journée en Coupe CAF. Deux clubs égyptiens partagent la tête du groupe A. Il s'agit d'abord de Pyramide FC, vainqueur des Mauritaniens du FC Nouadhibou 6-0. L'autre club égyptien, El Masri, a aussi enchaîné avec son deuxième succès de rang au Nigeria face à Enugu Rangers, battu 4-2. Alors, apprentissage difficile également pour les Béninois d'Esaü dans la poule B. Le club universitaire a enregistré son second revers en deux journées. Deuxième défaite cette fois-ci face aux Congolais du DC Motoma Pembe à domicile, donc 2-0. On écoute Rio Bio Richard, l'entraîneur d'Esaü.
Ce qui nous a manqué un peu de maturité. Vous savez, nous jouions en phase de poule et on avait en face les habitués de la compétition.
C'était donc Richard Bio, l'entraîneur d'Esaü au micro d'Élisée Mpatine. Alors, côté congolais, c'est une victoire qui relance le club Isaac Ngata, entraîneur du DC Motoma Pembe.
Ils sont restés dans un jeu typiquement académique et c'est là que nous avons décidé de les faire venir et puis de les prendre sur des ballons longs à l'intermédiaire.
Isaac Ngata, entraîneur du DC Motoma Pembe, des propos recueillis, donc je le disais, par Élisée Mpatine. Alors, Valdo, le Daring Club se devait de se relancer, et il a fait qui plus est à l'extérieur. Valdo, vous m'entendez?
Ça a toujours été pénible lors de ces deux matchs qualificatifs. Lors de ces deux matchs qualificatifs pour la phase des groupes, ça a été pénible pour les clubs qui n'ont, mais là, ça, porte aux yeux que le club est un peu plus à l'aise en déplacement et ils l'ont prouvé avec cette victoire 2-0. Deux buts signés Vini Bongonga, un attaquant qui s'affirme davantage au niveau de cette formation. Donc le dernier Moto Mapembe se relance pratiquement. Il faudrait alors s'assurer lors de la double confrontation, lors de la troisième et quatrième journée, pour espérer rester, bien sûr, poursuivre cette aventure dans cette compétition.
Le club de Kinshasa qui partage la première place de ce groupe B avec la Renaissance sportive de Berkane, accroché par les Zambiens de Zanaco, un but partout. Alors Amine, c'est un match nul, précieux pour les Berkani.
C'est un véritable point, un point en or pour l'équipe de Berkane qui avait eu l'habitude fâcheuse de mal voyager lors des deux tours précédents avec deux défaites. Cette fois-ci, dans cette compétition de poule, il ne s'agit pas de prendre des risques excessifs. Ils sont allés chercher le point du nul avec une équipe très solide, très bien organisée, qui a su profiter de son point fort. Les coups de pied arrêtés avec un but de leur nouvel avant-centre, Traoré, un but superbe. C'est le remplaçant de Labakojo. Ils ont peut-être concédé 9 minutes plus tard l'égalisation, mais ils n'ont jamais paniqué. Surtout, ils ont planté quelques banderilles tout au long de la rencontre, montrant qu'ils seraient un outsider solide, ou plutôt un candidat solide au titre. Il va falloir maintenant qu'ils enchaînent avec deux matchs décisifs contre Motema Pembe, le premier à Berkane et le second en déplacement à Kinshasa.
Dans la poule C, le Oroya de Conakry est en tête après sa large victoire sur les Libyens d'Al-Nassr 3-0. Oroya à 4 points, tout comme les Maliens de Djoliba qui ont dominé les Sud-Africains de Bidvest 1-0. Alors Amdine, pour le moment, Oroya et le Djoliba, sont en pole position dans ce groupe C-là.
J'aimerais un peu rester sur la performance de Oroya qui a été tenu en échec lors de la première journée, mais qui a sorti le grand 2-1. Au Libyen, les poulains du technicien sénégalais, Lamindiaye, ont été sans pitié face à ces Libyens qui ont mené sur le score de 3-0 avec 3 buts marqués par Makoumbo, Wakom Fakir, Aksid Bahreï et Koutoumbou. Il faut dire que c'est une belle victoire qui permet à cette équipe d'occuper sur la ville tout en tôt la première place du groupe C en compagnie du Libyen.
Je vous reprends, l'on parlait tantôt d'Esaü, le club universitaire de Cotonou, qui a enregistré deux défaites en deux sorties. Les carottes sont presque cuites pour les étudiants, comme vous les appelez.
Voilà, apprentissage difficile pour ce club. C'est vrai qu'il y a de la valeur avec des joueurs comme Bello, Abdourahman, Wilfried Lincoln et d'autres, bien évidemment. C'est des joueurs qui ont de la valeur, mais c'est une première expérience très difficile pour ce club en face. Vous avez bien le Garin Club Motema Pembe, le deuxième club le plus titré de la RD Congo. C'est vrai que le tout-puissant est devant. Il y a aussi la SD Club qui est là. Mais Garin Club Motema Pembe, désormais, s'est focalisé uniquement sur la compétition africaine. On a vu avec Otis Mbouma, ça n'a pas marché, il a été limogé. L'Italien qui était venu la saison dernière, Gostemini, qui a été aussi limogé ou bien qui est parti puisque le club n'a pas pu atteindre les phases de groupe. Cette année, c'est bien sûr le Congolais de Brazzaville, Isaac Ngata, qui a réussi le pari en qualifiant cette équipe en phase de groupe. Hier, on a vu un Vini Bukumba qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat congolais, qui a frappé deux fois le but d'un grand attaquant. C'est-à-dire que Esaü a certes bien joué puisque le club a été applaudi par le public sportif qui s'est déplacé massivement du côté de Porto Novo Stade Charles de Gaulle. Et on a vu la différence de niveau puisque les Congolais étaient vraiment supérieurs aux Béninois. L'apprentissage se poursuit. C'est vrai qu'on ne va plus trop miser sur la qualification pour les quarts de finale, mais on va continuer d'apprendre, on va essayer d'arracher au moins un point, et ça passe pas un bon résultat lors de la troisième journée contre les Zambiens de Zanaco.
Merci bien, Élisée Mpatine. Vous suivez Sporama, suivez OA Africa, une courte pause, et on se retrouve tout de suite. Vous l'avez suivi en fin de semaine dernière, la CAF a dévoilé la short list des joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur de l'année 2019. Ils étaient 30 et maintenant il n'en reste que 10. On y retrouve Sadio Mané, le Sénégalais, l'autre Sénégalais Kalidou Koulibaly, l'Égyptien Mohamed Salah, le Camerounais André Onana, le Marocain Hakim Ziyech, l'Algérien Ismaël Benacer, le Nigérien Odion Ighalo, Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon et d'Arsenal, l'Algérien Riyad Mehred et Youssef Belaïli, l'autre Algérien. Alors, Valdo, même si le Ballon d'Or France Football et le prix FIFA de Best nous ont surpris, il n'y a pas trop de suspense pour ce qui est de ce Ballon d'Or africain 2019.
Pas trop de suspense quand on sait que c'est Sadio Mané qui part en tête, qui est le super favori pour remporter bien sûr ce titre aussi prestigieux qui récompense les meilleurs joueurs de l'année sur le continent africain. Déception au niveau du Ballon d'Or France Football, mais en Afrique, certes, je pense bien qu'il n'y aura pas assez de surprises, sinon ça risque d'être une double déception pour les Sénégalais qui a été au terme d'une très bonne saison sportive. Mais la concurrence y est aussi, hein, parce qu'il y a les Riyad Mahrez qui est là également, qui peut aussi prétendre, qui peut également prétendre à ses titres, parce qu'il a fait aussi une très très bonne saison avec Manchester City et l'équipe algérienne pour avoir remporté la CAN. Donc les moins attendus au niveau bien sûr de la consécration suprême, ça sera Moussala. Donc cette fois-ci, il sait certainement qu'il doit laisser la place à Sadio Mané. Qu'on attend, on attend de voir ce qu'il sera de la CAF quand il va dévoiler, s'il y aura surprise ou pas. Mais du moins, tout le monde le sait, on attend de voir Sadio Mané brandir ses trophées individuels.
On attendra donc de voir. Alors, Jules, les Africains ont beaucoup critiqué les récompenses individuelles attribuées par la FIFA et le magazine France Football. Pensez-vous que l'effet inverse sera d'accorder plus d'importance désormais à ce qui se passe sur le continent? Jules?
Parce qu'on a vu comment, pendant très longtemps, le football business a plutôt préféré honorer les footballeurs africains par rapport à leur performance à l'extérieur, où, ma foi, il y a de grands enjeux, alors qu'il y a eu des passages où des footballeurs africains opérant en Afrique ont eu même à dominer ces stars, comme la période brillante de l'Égypte de 2006 à 2010, et qui n'a pas été couronnée par un ballon d'or. Donc, en revenant en Afrique, peut-être qu'on revient aux sources, mais il faut avouer quand même que le niveau européen, c'est un autre niveau, et que cette année, par exemple, il serait étonnant de ne pas voir Sadio Mané gagner, et son seul adversaire, c'est, à mon avis, c'est Mohamed Salah.
Pour le trophée de la meilleure joueuse africaine de l'année, ça va finalement se jouer entre la Camerounaise Adjara Nchout, la Nigériane Aziza Oshoala du FC Barcelone, l'autre Camerounaise Gabrielle Ungene du CSKA Moscou, la Malawite Tabita Chawinga du Jiangsu Suning et la tenante du titre sud-africaine Tembi Gatlana du Beijing Phoenix. Alors, Amine, pour le titre de meilleur espoir africain, sont en lice le Marocain de Dortmund Achraf Hakimi, le Sénégalais du FC Bruges Crépin Diata, le Malien de Southampton Moussa Dienepo, le Nigérian de Valence Samuel Chukwueze et celui de Lille Victor Osimhen. Alors, Amine, ça pourrait se jouer entre Achraf Hakimi, bien sûr, le Marocain, et Crépin Diata, le Sénégalais.
Et on pourrait avoir un troisième là en foire, c'est Chukwueze, qu'on a vu lors du trophée du meilleur jeune espoir, le trophée Copa, qui a été décerné cette année, une nouvelle fois par le magazine France Football. Mais a priori, avantage à Achraf Hakimi, étant donné son expérience, son vécu, ce qu'il apporte avec son club, le Borussia Dortmund, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Ajoutant à cela, petite cerise sur le gâteau, c'est devenu un des leaders de la sélection du Maroc, qui est bien parti pour se qualifier pour la prochaine CAN.
Merci. Alors, Amine, pour le titre d'entraîneur de l'année, on a bien évidemment le Sénégalais Aliou Cissé du Sénégal, l'Algérien Djamel Belmadi d'Afrique, champion d'Afrique avec l'Algérie, Nicolas Dupuis de Madagascar, Moine Chabani, double vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis, et le Suisse Christian Gross, précédemment entraîneur du Zamalek, champion de la Coupe CAF. Sporama qui s'achève ici à la réalisation, Joselle Mauricien devant ce micro, Yacouba Ouédraogo. Tout de suite, une nouvelle édition avec du journal, bien sûr, avec Abdourahmane Dia. On se dit à lundi prochain. We'll be right back.
Afrique.